Non è la prima volta di Marco Augier a Genova, né è la prima volta di Augier al Ducale, e neppure è la prima volta che ho l'onore di presentarlo. In realtà, nel caso di Augier, le presentazioni mi paiono abbastanza superflue. È infatti uno degli antropologi più noti al pubblico internazionale ed è molto conosciuto anche da noi in Italia, non fosse altro per la sua celebre definizione dei non luoghi, che sono poi quegli spazi della nostra contemporaneità, un po' uguali ovunque, in ogni parte della terra, gli aeroporti, piuttosto che gli ipermercati, villaggi vacanze, insomma, dove si è dappertutto in nessun luogo. Eviterei quindi il consueto rituale delle presentazioni per utilizzare il breve tempo, brevissimo perché non voglio assolutamente sottrarlo a Marco Augier, per fare alcune considerazioni in merito a Marco Augier. E visto che il tema di quest'anno è quello della mobilità, della storia in piazza e la dimensione appunto del muoversi, dello spostarsi nello spazio, della mobilità, insomma, il ruolo essenziale che la mobilità e il viaggio hanno svolto nell'esistenza di Marco Augier e in generale il ruolo essenziale che il viaggio svolge nell'esistenza di ogni antropologo, perché la vicenda dell'antropologia moderna appare strettamente legata appunto all'idea di viaggio, di spostamento nello spazio di un soggetto conoscente. In effetti proprio la specificità, se vogliamo, dell'etnologia deriva da questo fatto, no? Deriva che dal fatto che si tratta di un sapere che nasce e si sviluppa nell'incontro fra mondi culturali diversi. E questo proprio secondo la tradizione etnologica cosiddetta classica, l'etnologo è lo studioso che si contraddistingue per questa esperienza dello spostamento. In altre parole, è uno studioso che costruisce la sua identità di ricercatore, e in realtà in gran parte anche di individuo, e, insomma, come direbbe Marco Augier, costruisce la propria narrazione intorno al fatto di aver compiuto uno spostamento fisico e culturale, di essersi recato nell'altrove, di essersi in qualche misura esposto, trasferendosi in luoghi che un tempo convenzionalmente erano qualificati come esotici. E si è recato là per svolgere il suo lavoro sul campo, il cosiddetto terreno. In terreno in cui l'antropologo entra, sosta e infine esce in una sorta di rituale iniziatico, di incursione compiuta nelle vite e nei miti degli altri. Sostiene un autorevole antropologo, Clifford Geertz, che l'abilità degli etnologi sta proprio nell'indurci a prendere sul serio ciò che dicono, e il fatto di prendere sul serio quello che dicono ha molto a che fare con la loro capacità di convincerci appunto che essi, gli etnografi, sono penetrati davvero, o se si preferisce sono stati penetrati in un'altra forma di vita. Ed è qui appunto nella persuasione che quel miracolo, per così dire, dietro le quinte sia avvenuto, che la scrittura entra in gioco. Quindi se il muoversi è una prerogativa innata nella vita umana, come ci hanno ricordato molti degli relatori di questa rassegna, però una prerogativa che può essere più o meno attivata, per l'antropologo da un certo momento in poi, quantomeno, è dagli inizi del secolo scorso, è un passaggio imprescindibile, direi indispensabile per essere degli etnologi veri, cioè per essere incorporati nella comunità scientifico-disciplinare. Ovviamente Auger ha fatto il suo terreno, è un autorevolissimo africanista, ne ha fatti anche degli altri, ma insomma direi che il suo percorso poi è andato più in là. Per lui i miti non sono riservati agli altri esotici, e anche lo stesso concetto di altri e di alterità richiede una nuova definizione. La posta in gioco del domani, nella sua visione, è lo straniero ovunque e lo straniero da nessuna parte. Quindi lui è passato, se vogliamo, dall'alterità del villaggio africano all'io e un altro un po' di Rimbaud, no? E cioè allo straniero a me stesso, che è poi il titolo di un suo recente denso e molto catturante volumetto, che è in parte anche autobiografico. Quindi diciamo che come etnologo Auger è a suo agio nella situazione di spostamento, addirittura in parte un po' alla Lévi-Strauss, di disancoramento. Ecco, lui ci si ritrova in questa condizione, ci si ritroverà sempre, perché insomma lui dice l'antropologo in fondo non è mai al suo posto, e la sua professione risponde anche a un bisogno di essere altrove. E qui vorrei citare una sua frase, sempre presa da questo volume. Lui dice: quell'impressione di sentirmi a mio agio in uno spazio indefinito dove si osservano gli altri tanto più facilmente in quanto ci si sente altri da se stessi, come se bastasse diventare estranei a se stessi per trovare gli altri meno estranei. Ecco, allora direi che qui, insomma, c'è tutto il senso del movimento e del viaggio per l'etnologo, e i momenti più realizzati per Marc Auger, è sempre lui che ce lo ricorda, sono quelli in cui avviene un incontro tra il piacere del viaggiare, il mestiere d'etnologo e il desiderio di scrivere. Sempre dalle belle pagine finali del suo libro traggo la frase: non bisogna smettere di voler scrivere e non bisogna smettere di voler viaggiare. Ovviamente la scrittura antropologica non è una scrittura qualsiasi, tratta di altri, e altri ai quali l'etnologo ha avuto accesso soltanto al termine del viaggio. Naturalmente un viaggio contemporaneamente interiore e spostamento nello spazio. Ma io, dopo questa brevissima introduzione, lascio la parola a Marc Auger.
J'ai intitulé ces quelques réflexions « Un avenir étranger ». Pourquoi un avenir étranger ? Parce que nous avons majoritairement le sentiment que l'avenir nous échappe et que nous ne nous sentons plus chez nous dans l'avenir. Nous avons du mal à nous l'approprier. C'est un paradoxe peut-être, et je voudrais essayer de réfléchir pendant quelque temps sur ce paradoxe. Nous avons peur de l'avenir. Nous avons peur de l'avenir, de tout ce qui peut arriver. Les raisons et les dimensions de cette peur sont multiples. Elles sont sans doute partagées plus ou moins sur la Terre entière, même si sur certains continents, il y a des raisons plus immédiates de s'inquiéter. Il y a des catastrophes, sécheresses, inondations, famines, guerres, pauvreté, qui laisse moins de place aux spéculations à moyen terme. C'est immédiatement qu'il faut résoudre les problèmes. La conscience aussi de l'étroitesse de la planète, l'étroitesse de la planète qui rétrécit dans la mesure où nous la parcourons très facilement et où nous communiquons très facilement, la conscience de l'étroitesse de la planète de la limitation de ses ressources aussi et de l'expansion démographique fait le fond de nos craintes et des débats dans lesquels elle s'exprime. Il est clair que, par exemple, au début du XXe siècle, la population du monde était la population de la Chine aujourd'hui. Il y a donc une expansion démographique énorme qui pose des questions sur l'utilisation des ressources de la Terre. On voit bien dans les instances internationales, pourtant, que les pays en voie de développement ou les pays dits émergents n'ont pas les mêmes urgences ni les mêmes priorités que les pays dits développés. En gros, les pays occidentaux qui s'inquiètent de l'avenir de la planète tout en cherchant à maintenir leur position dominante. Ce qui fait qu'il y a parfois un malentendu entre les considérations écologiques, par exemple, développées par les pays industrialisés et les vis-à-vis des autres pays qui ont besoin d'accroître leur potentiel. Les pays occidentaux sont particulièrement sensibles aux mouvements de population liés à la croissance démographique. Ces mouvements leur semblent pouvoir perturber à court terme leurs équilibres sociaux ou leurs valeurs fondamentales. Les migrations inquiètent dans les pays occidentaux. Et cette inquiétude a deux aspects. Elle se polarise sur des points précis, comme la sécurité ou la défense des emplois. Mais elle est aussi plus vague, plus vaste et plus diffuse lorsqu'elle s'inscrit dans un mouvement général de défiance à l'égard de l'avenir en général, des institutions politiques qui devraient le garantir, et des innovations technologiques ou scientifiques dont on redoute les effets directs ou indirects. Alors je vais vous proposer ici quelques considérations apparemment un peu décousues, mais qui me semblent susceptibles d'éclairer un peu les termes et les thèmes des différents débats en cours de ce point de vue. Quelques remarques donc. Si l'on se réfère aux enseignements de l'anthropologie physique actuelle, on peut considérer que les populations humaines ont toujours été en mouvement, même si la sédentarisation qui s'est produite au néolithique a entraîné d'immenses développements technologiques et sociaux. L'origine de l'homme se confond avec un effort incessant pour maîtriser l'espace en l'aménageant, mais aussi en s'y déplaçant. Malgré l'illusion d'enracinement et d'immobilité que suscite l'image des villages traditionnels et l'attachement à leur terroir des populations qui y vivent, le mouvement est la vérité des sociétés humaines qui ont progressivement fait la conquête du globe. La question des migrations aujourd'hui ne se résume pas au rapport entre le Sud et le Nord. Il existe des mouvements de population internes à l'Afrique ou à l'Amérique latine, par exemple, qui sont très importants et qui posent des problèmes du même ordre que ceux que nous évoquons lorsque nous parlons, par exemple, de la migration vers l'Europe. En Côte d'Ivoire, au Nigeria ou en Afrique du Sud, la question des immigrés anciens ou récents est brûlante et aboutit à des crises. Souvent, lorsqu'il s'agit de l'arrivée des migrants des pays du Sud vers les pays du Nord, ce déplacement présente objectivement l'aspect d'un retournement de situation. Et dans le langage politique de l'extrême droite, il peut même être présenté comme une invasion qui témoignerait d'une volonté de revanche, comme si les anciens colonisés voulaient coloniser les anciens colonisateurs. De ce point de vue, les situations sont diverses. Il y a eu deux grands types de colonisation. La colonisation avait souvent des finalités économiques ou politiques qui ne nécessitaient pas la présence d'une forte population de colons. La colonisation française en général n'a pas été, à quelques exceptions près, une colonisation de peuplement. Mais les colonies de peuplement ont été pour leur part de grandes réussites techniques. Les mouvements migratoires espagnols, portugais puis anglo-saxons ont abouti à l'apparition des grandes nations que nous connaissons aujourd'hui. Et évidemment, au détriment des populations locales, éliminées ou isolées et contingentées, avec parfois quelques politiques plus ou moins amples selon les régions de métissage. Deux continents, l'Amérique, nord et sud, et l'Australie, sont l'expression politique d'invasion migratoire européenne réussie, techniquement réussie. Lorsque les États-Unis essaient aujourd'hui de maîtriser les flux migratoires venus du Mexique, tout autant que lors de la guerre américano-mexicaine du XIXe siècle, c'est bien d'un conflit entre migrants de générations différentes qu'il s'agit. La réussite du peuplement de l'Amérique par la migration s'est en outre doublée de l'invasion massive d'esclaves issus de la traite des Noirs. Lorsque nous entendrons aujourd'hui à nouveau des menaces sur la guerre qui pourrait opposer l'Argentine à l'Angleterre pour les îles des Malouines, ce sont deux colonisateurs qui se battent entre eux. On dénonce souvent, en France et ailleurs en Europe, les politiques de délocalisation de nos industries, qui sont pourtant l'inverse des politiques d'immigration. L'installation d'industries dans les pays en voie de développement donne du travail sur place et devrait très évidemment freiner le mouvement d'émigration. Mais on fait valoir aussi, d'un autre côté, que les délocalisations, motivées par les bas salaires payés dans les pays où l'on délocalise, mettent au chômage les ouvriers des pays développés. Et bien sûr, les politiques de délocalisation de la part des industries sont rarement inspirées par l'altruisme et le souci de développer les pays non développés. Mais la conséquence, c'est que les autres par rapport à l'Occident, qu'ils partent de chez eux ou qu'ils y restent, sont donc d'abord considérés comme des voleurs d'emplois, de notre point de vue. L'émigration de la misère et l'émigration du travail ne sont pas les seuls mouvements de population auxquels nous assistons aujourd'hui. Les grands de ce monde, les politiques, les hommes d'affaires, les artistes, quelques enseignants du supérieur, circulent dans le monde planétaire comme s'ils leur appartenaient. Les grandes épreuves sportives ne connaissent plus de frontières et nous nous habituons à voir en direct à la télévision des voiliers qui battent des records de traversée des océans du globe sous l'œil vigilant des caméras de télévision. Le tourisme est une activité à laquelle la majorité des habitants de la Terre n'a pas accès, mais qui concerne, y compris sous la forme du tourisme international, des franges de plus en plus considérables des classes moyennes dans les pays développés et les individus les plus aisés des pays émergents. Les destinations privilégiées par les touristes étrangers sont souvent les pays d'où partent les migrants, dans l'autre sens, pour essayer de trouver du travail. Et ce croisement, si je peux m'exprimer ainsi, est assez remarquable, assez évocateur de la situation du monde dans son ensemble. Nous assistons même au début du tourisme spatial, qui verra bientôt des touristes fortunés, les listes sont achevées, elles sont bien remplies, qu'ils ont déjà réservé leur place, monter dans une fusée, se faire mettre en état d'apesanteur et contempler la Terre quelques minutes pour la voir de loin. Nous en avons déjà des images parce qu'elles viennent des satellites d'observation, mais évidemment l'impression sera plus forte pour ceux qui, tel Christophe Colomb découvrant les rivages de l'Amérique, auront l'impression au retour de redébarquer sur la Terre. Les déplacements de population et de façon plus générale la mobilité des populations peut se lire autrement, d'un autre point de vue. L'urbanisation du monde en témoigne. Les grandes métropoles s'étendent et se décentrent. Les anciens centres historiques devienne chaque jour davantage le lieu de visite des touristes étrangers, cependant que les entreprises et les habitations s'éloignent. On habite dans les grandes métropoles de plus en plus loin du centre pour des raisons économiques, parce que les loyers sont moins chers, et aussi parce que les entreprises et les activités économiques s'éloignent du centre historique traditionnel. Et le centre historique traditionnel, qui peut représenter aux yeux de certains le cœur de la société et de la culture, est envahi par les touristes étrangers qui viennent voir les bâtiments, les choses remarquables et la beauté des lieux. Autrement dit, il y a un décentrement de la ville. Par parenthèse, je ferai remarquer que ce décentrement est un phénomène plus général. Il y a également un décentrement des maisons, des demeures, des endroits où l'on vit. C'était l'helléniste Jean-Pierre Vernant qui avait fait remarquer que dans la maison grecque classique, il y avait le foyer, le centre, qui était à l'ombre, ombreux, féminin, habité, donc surveillé par les femmes, et qui était le lieu de la déesse Hestia. Et puis il y avait à la porte le seuil où l'on voyait le jour et où trônait le dieu Hermès. Hermès qui est le dieu des frontières, des limites, des voyageurs, des commerçants, etc. Et qui est évidemment l'univers masculin, lumineux, aventureux, cependant que l'intérieur sombre mais chaleureux était l'univers féminin. Eh bien tout cela a bien bougé, puisque qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui à la place du centre et du foyer ? La télévision et l'ordinateur, qui sont l'instrument de la relation avec l'extérieur, qui sont la présence du monde étranger à l'intérieur de la demeure la plus familiale. Et quelquefois, il y en a même plusieurs, ce qui accentue encore les choses. Donc, on peut dire qu'il y a un décentrement généralisé des villes, des demeures, et éventuellement même des individus, puisque nous sommes, pour la plupart d'entre nous, porteurs d'instruments qui nous remettent en relation avec l'extérieur. Les téléphones portables deviennent de plus en plus sophistiqués, les iPhones et tout ça. Et d'une certaine manière, nous sommes suréquipés individuellement. Ce qui fait en sorte que, quand on circule dans une rue, on voit beaucoup de gens qui semblent parler tout seuls, mais qui en fait discutent avec des interlocuteurs fantomatiques pour les autres, qui sont à l'autre bout du monde éventuellement. C'est assez frappant. Surtout, par exemple, lorsqu'on voit dans un café, assis face à face, un monsieur et une dame qui, chacun, ont leur appareil et qui discutent non pas entre eux, mais avec des interlocuteurs ailleurs. C'est un autre type de relation qui se met en place. Toute la diversité et la misère du monde se retrouvent dans les grandes cités de la planète. Cependant que le tissu urbain transforme le paysage en se développant au long des routes, des fleuves et des côtes maritimes. Il y a donc une croissance des villes et une extension du tissu urbain, non pas des villes à proprement parler, mais de l'urbanisme en quelque sorte. On voit ainsi une double attraction s'exercer, des villes sur les zones rurales et du nord vers le sud. Mais les parcours des uns et des autres ne se croisent pas. Ce sont des circuits ou des voies parallèles. Nul point de rencontre. Les camps de réfugiés, les banlieues éloignées pour les plus pauvres, les hôtels ou les résidences de luxe pour les plus riches, avec bien entendu un certain nombre de cas intermédiaires. On peut en conclure que jamais sans doute on a autant circulé sur la planète, compte tenu de l'extraordinaire poussée démographique du siècle dernier, sans que jamais les regards ni les parcours se croisent sans que se produisent véritablement des rencontres. C'est évidemment là une contradiction dont beaucoup ont conscience sans toutefois parvenir à la surmonter. Nous avons conscience, en effet, chaque jour davantage de l'interdépendance réciproque des diverses parties du globe. Mais la technologie et les moyens de circulation sont en quelque sorte en avance sur les sociétés, sur les réalités de la société. Et c'est ce décalage peut-être qui suscite nos peurs ou nos inquiétudes. L'idéologie du système capitaliste dans son état actuel, c'est l'idéologie de la consommation individuelle, dont fait partie la communication. Si chacun remplit son devoir de consommateur, tout ira bien. Et on s'intéresse beaucoup, comme vous le savez, à la consommation des ménages, à la relance, on craint la récession, il faut que les consommateurs consomment. Les obstacles sont de divers ordres, comme nous le savons. La machine économique globale est souvent difficile à régler, à réguler, comme on dit, à cause notamment des interférences avec la logique financière qui n'a pas toujours les mêmes impératifs que la logique de la production. Avec la logique du profit spéculatif dont les paris et les prises de risques perturbent l'équilibre économique entre investissement, salaire et consommation. Il s'agit là d'un obstacle techniquement économique, mais qui n'est pas sans dimension sociale et politique, puisque, vous le savez, quand une entreprise licencie une partie de son personnel, les actions montent. L'individu uniquement consommateur n'existe pas et ne peut pas exister. L'individu absolument seul, d'ailleurs, ne peut pas exister. Il n'y a pas d'identité sans altérité, c'est-à-dire sans relation. L'homme est un être ou un animal, si vous voulez, symbolique, c'est-à-dire qu'il a besoin de produire de la relation pour exister comme tel. L'identité a besoin d'altérité, la singularité a besoin de relation. Ces différents systèmes de relations sont historiques et pris dans des histoires qui ont chacune évolué à leur rythme et à leur vitesse propre, même quand elles subissaient l'influence et les contre-coups de l'histoire globale. Il s'agit là d'un obstacle spécifiquement anthropologique qui touche à la définition même de ce qu'est l'identité individuelle et l'identité collective. Au total, nous vivons, à l'échelle de la planète, une situation d'inégalité économique croissante et également une situation d'inégalité du savoir croissante. Alors que les progrès de la science placent les plus informés devant des perspectives vertigineuses, beaucoup, y compris dans les pays développés, sont des laissés pour compte du savoir. Et il s'agit là d'un obstacle sociologique qui est inquiétant parce qu'il est porteur de violence. Nous ne pouvons pas imaginer sans crainte le développement d'un univers en expansion où les plus riches des riches seraient toujours plus riches et les plus pauvres des pauvres encore plus pauvres, et où les plus proches de la connaissance seraient encore chaque jour plus éloignés de ceux qui sont analphabètes. Il y a là quelque chose de dramatique pour l'avenir de l'humanité. Dans une situation si déséquilibrée, on peut s'attendre que se développent aussi bien les idéologies nationalistes ou religieuses ou idéologiques les plus réactionnaires les unes que les autres, et que se développent aussi les manifestations de rejet et de suspicion à l'égard de l'autre les plus déplorables. Et c'est un peu le cercle vicieux classique de celui qui est malade de la persécution et qui est effectivement persécuté. Ce qui fait que les phénomènes de rejet, d'incompréhension de l'autre sont souvent sont très répandus aussi dans des milieux qui doivent se sentir assez proches des exclus. Les exclus entre eux arrivent à s'exclure aussi. Une fois encore, dans l'histoire de l'humanité, ce ne sont pas les questions posées qui sont folles, car elles expriment des craintes et des interrogations objectivement justifiées, mais les réponses que certains y apportent. Il s'agit là d'un obstacle historique et politique qui affectera sans doute durablement toute tentative de solution humaniste au problème de la globalisation et qui peut laisser craindre l'apparition de violences inédites. Entre des citoyennetés nationale en difficulté et une citoyenneté mondiale prématurée, nous assistons à des tentatives de composition ou de recomposition que l'on pourra juger soit véritablement difficiles, soit au contraire exaltantes puisqu'elles offrent des perspectives nouvelles. Comment s'adapter au changement d'échelle en cours ? C'est ça le problème, le changement d'échelle. Un changement d'échelle qui devrait, à long terme, que nous voulions ou non, faire de nous des terriens, sinon des citoyens du monde, des planétariens. En un sens, les migrants sont les héros des temps modernes. Leur aventure, parfois tragique, prouve que l'on peut rompre avec les attaches du territoire, s'affranchir des cultures enracinées et se lancer dans une aventure purement individuelle. Et là encore, ils font peur. D'abord parce qu'on les soupçonne de mentir, de vouloir recréer sur place des solidarités anciennes, et non seulement de se serrer les coudes, mais de promouvoir des communautarismes offensifs qui portent atteinte à l'histoire, aux traditions, voire aux valeurs du pays d'accueil. Et ce sont des craintes que l'on doit enregistrer. Mais aussi, plus subtilement, ils inquiètent lorsqu'ils échappent même visiblement à ce soupçon. Car ils démontrent alors par l'exemple, en sens inverse, la relativité du lien qui attache chacun à son lieu. Ce lien est senti chaque jour comme plus fragile devant les accélérations de la globalisation. Certains peuvent s'effrayer de ce séisme sociologique qui leur inspire soudain un sentiment de solitude. Si d'autres ont pu s'affranchir des liens qui les attachaient à la Terre, c'est que ces liens ne sont pas si indépassables. Sans se donner le ridicule de décréter des solutions à des problèmes historiques de long terme, on peut essayer de classer les questions, car la confusion est un facteur d'incompréhension et de violence dont nous avons des témoignages aujourd'hui. La question de ce qu'on appelle parfois l'intégration est double. Elle ne concerne pas seulement les migrants dans le pays d'accueil, mais plus largement l'adaptation de tous aux contraintes du nouvel espace planétaire en voie de constitution. La question du marché mondial et des interférences de la spéculation financière a des aspects techniques qu'une volonté politique claire et loyale devrait pouvoir maîtriser. Quant à la question de l'identité, elle est simultanément individuelle et plurielle. Nul individu ne peut se penser comme isolé. La relation est essentielle à la définition et à la perception de l'identité individuelle. L'action politique, au sens le plus noble du terme, a deux impératifs complémentaires et à la limite contradictoires, ou à tout le moins toujours en tension: garantir la liberté des individus et préserver la possibilité des relations, c'est-à-dire le sens social. Le sens social, ce sont l'ensemble des relations telles qu'elles sont prescrites, telles qu'elles sont représentées dans l'esprit de chacun, imposées parfois par une constitution ou par des idéologies, et qui de toute manière donnent du sens à la vie collective. Mais poussé à la limite, ce sens social peut être un totalitarisme, une contrainte absolue, soit dans des formes élémentaires de société où tout est prescrit aux individus, soit dans des formes beaucoup plus évoluées mais totalitaires de grands systèmes qui contraignent les individus à s'aligner sur le modèle décrété. Face à cela, il faut évidemment préserver la liberté individuelle, mais la liberté individuelle ne peut pas se passer de la relation du sens. Donc il y a un compromis à trouver toujours entre les contraintes du sens et celles de la liberté, du sens social et de la liberté individuelle. Et on peut estimer que c'est le devoir de la démocratie de veiller à ce qu'aucun des deux impératifs n'empiète sur l'autre. Un avenir étranger dont nous craignons l'apparition, dont nous pressentons l'apparition parfois, parce que nous ne nous y reconnaissons plus. Ça peut s'éprouver parfois dans le paysage. Les paysages changent, les villes s'étendent, les villages disparaissent ou changent de forme. Et il y a quelque chose qui se repère dans le paysage et qui peut toucher à notre identité. Est-ce que ces peurs ont à voir avec la peur des autres ? Oui, et c'est un paradoxe, parce qu'à l'époque de la globalisation qui a suivi la colonisation, nous devenons tous progressivement des terriens. Et plus le monde s'unifie en un sens, plus nous avons peur un peu des contacts qui nous opposent aux autres. Alors, qu'est-ce que l'on peut en conclure ? On peut en conclure qu'il est absolument important d'opérer une sorte de recentrement sur le temps et sur l'espace, et ce recentrement passe par un effort d'éducation. Si nous nous en tenons à l'espace, qu'est-ce que nous voyons ? Nous voyons que aujourd'hui, les institutions internationales sont en train de classer l'humanité, la surface terrestre, en zones différentes. Nous sauvegardons le patrimoine de l'humanité. Il y a des lieux qui sont décrétés patrimoine de l'humanité. Il y a des régions de plus en plus grandes qui sont classées parcs naturels. Nous classons comme dans un grand jardin et avec des monuments, comme un grand musée. La planète se transforme en une sorte de grand musée et de grand jardin, comme si nous éprouvions le besoin de faire un inventaire. Il y a en français, quelquefois on voit cette expression « inventaire avant liquidation » sur les magasins, quand un magasin va fermer. Alors je ne dis pas que nous sommes en train de faire l'inventaire avant liquidation de la planète, mais quelque chose de ce genre y ressemble. La science nous apprend, nous confirme le côté infime de notre planète. La planète est une toute petite chose. Il y a des milliards de systèmes solaires dans notre galaxie, et il y a des milliards de galaxies dans l'univers. Ces connaissances se diffusent. On en a une conscience plus ou moins nette, mais elle se diffuse. Et parallèlement donc à la perception de la globalité de notre planète, qui fait que plus personne n'appartient à son petit lieu propre, il y a cette conscience presque pascalienne de l'infiniment grand, on trouverait la même chose du côté de l'infiniment petit, qui est en effet vertigineux. Alors, que peut-on suggérer par rapport à cela ? On est obligé de se recentrer sur soi, sur l'espace et sur le temps. Se recentrer sur soi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les hommes, individuellement, ont certainement une sorte de double conscience. Une conscience d'exister comme être individuel, chacun d'entre nous existe individuellement, et en même temps, une perception de quelque chose qu'on pourrait appeler l'homme générique. Et c'est le dialogue entre l'homme individuel et l'homme générique qui, dans chaque conscience, produit des effets. L'homme générique, c'est l'être humain en général. C'est l'être humain en général, indépendamment de son sexe et de sa génération et de son âge, de ses origines. Dialogue donc entre l'homme individuel et l'homme générique. Nous prenons conscience de l'homme générique de temps à autre. Quand un Américain a marché sur la Lune, nous n'avons pas dit oh, « un Américain a marché sur la Lune », nous avons dit « l'homme a marché sur la Lune ». Nous sentions fugitivement une espèce de sort de destin commun entre cette image et notre propre parcours. Certainement, c'est du côté de la science que se situent les formes de croyance en l'avenir. La science n'est pas arrogante, elle déplace progressivement les frontières de l'inconnu, quitte à se reprendre si les hypothèses ne sont pas confirmées. Et pourtant, la science, c'est le seul domaine dans lequel nous pouvons affirmer, sans crainte de nous tromper, qu'il y a eu un progrès. Et la science, par ses avancées prudentes, est un modèle que l'on pourrait essayer d'importer dans le domaine de la gestion des hommes. Non pas au nom d'un scientisme, on a déjà essayé, mais au nom du savoir progressif, de la connaissance prudente, déplacer les frontières de l'inconnu. Cette frontière intérieure à chaque homme, qui existe entre l'homme individuel et l'homme générique, je dirais que elle doit être préservée. Elle doit être préservée et c'est elle qui relativise la portée des autres frontières. Il faudrait qu'à l'intérieur de chaque culture, de chaque nation, de chaque univers particulier, les frontières qui délimitent l'autonomie de chaque individu soient respectées. Chaque individu est souverain. Sartre avait trouvé une belle formule pour parler de cela. Il avait dit « tout homme, tout l'homme ». C'est-à-dire n'importe quel homme représente tout l'homme. Eh bien, je crois que c'est en revenant sur cette formule, en essayant de l'éprouver et d'essayer d'imaginer ce que pourrait être une fraternité en ce sens concret, la perception de l'homme générique à travers l'homme individuel, que l'on pourrait peut-être échapper au sentiment de solitude ou de peur que nous donnent les progrès sans qualification morale de l'histoire de l'humanité. Merci.
Ringraziamo Marco Gè per questa stimolante conferenza. Se ci sono delle domande, potete farle.
Sembra che. Je crois pas que les. Je crois pas que ça soit tout à fait dans l'esprit du show.
Niente, allora arrivederci.